tous et bienvenue pour ce nouveau cours MVA sur les fondamentaux C#. Nous en sommes au 8e module et aujourd'hui nous allons voir le nouvel opérateur qui est l'opérateur while. Alors on ne va pas voir que l'opérateur while si je reprends eh bien, mon petit bloc-notes. Nous allons voir l'opérateur while et nous allons traiter d'autres sujets. L'idée dans ce chapitre, eh bien, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on a vu jusqu'à présent. C'est d'utiliser des objets du framework pour pouvoir lire le contenu d'un fichier et l'afficher sur une console. Alors bien, tout ça va nous permettre d'aborder certains concepts, notamment les espaces de nommage qui sont les namespaces. On verra un petit peu comment faire pour utiliser un objet du framework existant qui va nous permettre de lire un fichier. On verra d'ailleurs que pour ça, on aura besoin de faire deux, trois vérifications, notamment sur la nullité du contenu d'une variable. On verra un petit peu les propriétés d'un fichier que l'on va stocker à l'extérieur. Tout ceci nous permettra au final eh bien, de lire le contenu d'un fichier de l'écrire dans notre sortie console. Alors, comme d'habitude, je vais passer sur mon Visual Studio, que voici. Et ici, j'ai déjà créé un projet que j'ai appelé File and While, qui va nous permettre d'écrire tout notre code. Alors, l'hypothèse de départ, c'est que j'ai un fichier qui se trouve dans le répertoire cTemp, qui s'appelle summary.txt, que je vais vouloir ouvrir. Bien. Première chose, il faut savoir que j'ai souvent tendance à dire ça. Eh bien, lorsque on a des choses relativement simples à faire, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Souvent, Visual Studio vous donne des objets existants qui vont vous permettre eh bien, de réaliser des tâches relativement simples. La lecture d'un fichier en fait partie. Et on va utiliser un objet qui s'appelle le StreamReader. Alors, le StreamReader, eh bien, si vous commencez à appeler, je vais donc commencer à marquer Stream. Et vous voyez qu'ici, dans l'IntelliSense, j'ai rien qui commence par Stream. D'accord? Alors, si je vais jusqu'au bout, StreamReader, ça s'écrit comme ça. Vous voyez que j'ai absolument rien qui remonte dans l'IntelliSense. Ça, déjà, c'est très mauvais signe. Quand on n'a pas l'IntelliSense qui remonte, ça veut dire que soit l'objet n'existe pas, soit il n'est pas placé au bon endroit. Alors, quand je dis qu'il n'est pas placé au bon endroit, en fait, le StreamReader ne se situe pas à la racine des objets, mais il se situe dans un namespace qui s'appelle system.io.streamReader. Ici, je le retrouve. D'accord? Donc, je l'appelle Stream. Alors, je l'appelle lecteur. Égale new system.io.streamReader. Alors, le concept de namespace, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que l'ensemble de mes objets, eh bien, je vais les classer dans une sorte de tiroir qui va me permettre de les organiser. En fait, l'organisation de namespace, ça permet de ne pas avoir tout à la racine et d'avoir une intelligence qui fait 18 km de haut. Ça permet justement de simplifier. Imaginez un petit peu un classeur dans lequel vous allez mettre eh bien, des encarts pour pouvoir vous repérer quand vous voulez directement aller à l'ensemble des objets qui concernent les I/O, donc input-output, donc tout ce qui est lecture de fichiers. Je vais directement au rayon I/O et à l'intérieur, je trouve l'ensemble des objets qui ont ce rapport-là. D'accord? Donc ici, mon stream reader, lorsque je suis dans system.io, donc le namespace system.io, j'ai l'ensemble de tous les objets qui ont peu ou prou rapport à des fichiers. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai l'objet qui s'appelle file, file info, je vais avoir directory aussi, me semble-t-il. Voilà. J'ai plein d'objets qui ont des rapports avec les I/O. C'est ce qu'on appelle un petit peu le concept des namespaces que vous retrouvez ici, en fait. Hein. Voilà. Et globalement, chaque fois que je vais vouloir utiliser quelque chose qui vient de system.io, eh bien, il va falloir que j'aille écrire system.io. Alors, io avec un O majuscule. Alors, d'accord, j'ai pas écrit système correctement. System. Voilà. Quand j'ai une distance qui apparaît, c'est que c'est bon signe. File, par exemple, ou system.io.directory. Bien. Ce qu'il y a, c'est que si chaque fois que je dois utiliser, supposons que j'écris un programme qui va intensivement appeler des objets du namespace system.io, si chaque fois que je dois écrire system.io. quelque chose, c'est relativement long. Ce qu'on peut faire, c'est faire un raccourci et prendre le namespace ici, system.io, je vais faire un coupé, et je le rajoute ici dans mon using. Les fameux using qu'on a vu depuis le début, eh bien, ce sont finalement des raccourcis qui permettent de dire tout ce qui se trouve dans system.io, eh bien, j'ai pas besoin de le préfixer lorsque je les appelle, ils sont directement rajoutés pour moi à la compilation. Donc, du coup, ici, lorsque j'écris stream reader, vous voyez que directement il apparaît. Il me dit bien qu'il se situe dans le namespace system.io, mais j'ai pas besoin de le spécifier parce que je l'ai mis ici. Finalement, tout ce qui est using ici, ce sont des raccourcis pour éviter, eh bien, d'avoir à écrire le nom complet de la classe chaque fois que j'en ai besoin. Donc, stream reader, donc lecteur, est égal à new stream reader. Vous voyez qu'ici, entre parenthèses, eh bien, il prend plein de possibilités d'overload de méthodes, et notamment avec le pass, qui est donc le chemin du fichier. Donc le chemin du fichier, c'est une chaîne de caractères, et chez moi, c'est ctemp-summary.txt. Donc c'est deux points anti-slash, temp anti-slash, summary, pardon, summary.txt. Alors attention, il faut savoir que le caractère anti-slash est un caractère un petit peu particulier, donc est un caractère qui n'est pas forcément compris en tant que chaîne de caractères. Donc soit je le double comme ceci, pour qu'il comprenne bien que c'est un caractère, soit je peux mettre juste avant le double code ici un arrobase, pour dire attention, tout ce qui est à l'intérieur, c'est forcément une chaîne de caractères, même si tu rencontres des caractères spéciaux. Bon, donc ça, c'est une bonne méthode pour s'éviter des soucis. Donc j'ai bien écrit temp avec sans e, donc c'est très bien. Et après, je vais donc utiliser mon while. Donc comment est-ce qu'on écrit un while? Donc mon while, c'est tant que, en fait. C'est-à-dire tant que je fais quelque chose. Donc je vais faire un while. Donc tant que quelque chose n'arrive pas. Donc while, donc avant, et après j'écris ça dans un bloc de code. Donc avant, je vais déclarer ici une chaîne de caractères que je vais appeler, hop là, excusez-moi, string. Line, et je vais dire tant que ma ligne est différente de nulle, vous allez comprendre pourquoi juste après, j'exécute ce bloc de code là. Et ma ligne ici, je vais dire lecteur.readline. Vous voyez que readline, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit je lis une ligne de caractère depuis la position actuelle dans mon flux, dans mon stream reader, dans mon lecteur. Donc je vais faire un readline ici. Et l'affecte, donc il le lit, donc c'est un peu comme un console.readline, c'est un lecteur.readline, et je l'affecte dans ma chaîne de caractères. D'accord? Et une fois que j'ai lu ma chaîne de caractères, je peux très bien ici l'écrire sur ma sortie console.writeLine de line. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, il me dit qu'attention, ma ligne, j'utilise l'objet string line qui n'est pas encore affecté. Donc ce que je passe ici, c'est lui dire que je l'affecte d'abord à une chaîne vide. Alors attention, une chaîne vide, c'est différent de nul. Nul, c'est que globalement, la variable line ne contient rien. La chaîne vide, c'est quelque chose. Il faut savoir qu'une chaîne vide, ça représente quelque chose, ça représente une chaîne vide. Mais c'est un peu plus que nul. Ici, je lis ma ligne. Et je l'écris sur la sortie console. Donc, tant que je suis capable de lire une ligne, eh bien, je lis ma ligne. Ce qu'il y a, c'est que si jamais ici il a lu quelque chose qui est égal à nul, je ne veux pas l'écrire dans ma console. Donc, je vais dire if line est différent de nul, alors je l'écris dans ma sortie console. Et ici, j'oublie pas de faire un console.readline. Voilà. Donc ici, si on reprend un petit peu mon code, si on le résume. Ici, j'ai un stream reader qui va lire un fichier. Tant que j'ai une ligne qui est différente de nulle, je lis la prochaine ligne de mon stream reader. Si cette ligne n'est pas égale à nulle, je l'écris sur la sortie console et je boucle. Donc je reviens au début et je boucle tant que ma ligne n'est pas égale à nulle. D'accord? Voilà un petit peu le squelette de mon programme. Et je vais l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Attention, j'oublie une dernière chose qui est très importante quand on utilise un lecteur de flux. Ici, c'est d'appeler la méthode lecteur.close. Ça, c'est quoi ce lecteur.close, cette méthode un petit peu particulière? Ça permet de fermer le flux de lecture sur mon fichier. Ça a déjà dû vous arriver. Un jour, vous avez peut-être voulu supprimer un fichier sur Windows et Windows vous dit attention, ce fichier est loqué par en utilisation par quelqu'un d'autre, je ne peux pas le supprimer. Eh bien, c'est tout simplement parce que quelqu'un a ouvert un flux, que ce soit en lecture ou en écriture sur votre fichier, et qu'il est encore en train de l'utiliser et qu'il n'a pas appelé la méthode close. Donc, c'est important d'appeler la méthode close pour relâcher le fichier et pouvoir le donner à utilisation par quelqu'un d'autre. Donc, je vais exécuter ce code-là et on va voir si effectivement ça fonctionne. Donc, exécution. Et voilà, j'ai bien réussi à lire mon fichier et à l'écrire sur ma sortie console. C'est donc pas trop trop mal. Ce qu'on peut faire ici, c'est prendre tout ce code-là et en déclarer en extraire, on va dire, une méthode. Donc si je prends ça, donc je peux faire soit un copier-coller et déclarer ma méthode. Ce que je peux faire aussi, c'est faire ici un clic droit, faire un. Alors il faut que je retrouve le raccourci refactor, voilà qui est ici. Je vais faire extract méthode et je vais appeler cette méthode que je vais l'appeler. Alors moi je préfère les mots, les méthodes avec des anglicismes. Donc je vais faire read file. Voilà. Et automatiquement, vous voyez ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'a créé la méthode static void readFile. Il m'a mis l'ensemble de mon code qui est ici et il m'a appelé cette méthode depuis ma méthode main. Donc évidemment, ça fonctionne de la même chose. Mais je vous propose d'aller encore plus loin et plutôt que de dire tu vas directement lire toujours le même fichier, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de passer le nom du fichier en paramètre string file name et ce file name là, ici, je vais le mettre à la place de celui-là. Ctrl X, file name, et l'appel de ma méthode ici, je vais le faire comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai une méthode qui est paramétrée, qui prend en paramètre un fichier et qui me le lit et qui me le renvoie sur la sortie console. Et que du coup, effectivement, l'exécution du code est le même. Mais ce qui est bien, c'est maintenant, c'est que puisque j'ai une méthode qui est paramétrée, je peux appeler cette méthode avec un autre paramètre. Donc je peux faire par exemple ici read file name, et je vous propose d'aller voir si j'ai pas un fichier quelque part qui traîne. Je vais en créer donc un nouveau. Donc par exemple, nouveau fichier texte, donc toto.txt, vous savez qu'on a tous créé des toto. Quelque chose. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, CTRL S, je ferme. Et si maintenant j'appelle readline de tout ça, je remplace par toto, point virgule, j'exécute. Et effectivement, cette fois-ci, il ne m'a pas lu le premier fichier, mais le deuxième. Donc facilement, j'ai réussi à créer une méthode qui va lire un fichier texte et me le renvoyer dans ma sortie console. Ce que je peux faire aussi, on peut aller plus loin, on peut s'amuser avec notre méthode, et plutôt que de renvoyer void, elle va nous renvoyer le nombre de caractères que contient chacune, que contient que contient mon fichier. Ce qui peut être marrant. Donc, ça permet d'avoir, de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour aller un petit peu plus loin en termes d'algorithmie. Donc, je vais vous faire le code, vous allez voir, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, on va déclarer un entier qu'on va appeler compteur, peu importe. Je vais directement l'initialiser à 0. Alors, j'ai commencé à tout écrire. Alors, j'ai fait un peu d'anglais, un peu de français, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc, on va essayer de tout mettre en anglais. Moi, j'ai plus l'habitude d'écrire des anglicismes, donc on va faire reader. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, regardez, j'ai renommé lecteur en reader, et vous voyez qu'ici, j'ai un petit tilde rouge qui apparaît. Donc, si je clique dessus avec ma souris, il me dit, veux-tu que je renomme l'ensemble des lecteurs en reader? Ça, c'est très bien, c'est une facilité de Visual Studio qui vous permet de renommer une variable d'une façon à l'autre et qui va introspecter tout votre code, et chaque fois que cette variable est appelée, ou cet objet qui est appelé, il va le remplacer par reader. Donc, c'est très bien pour moi, c'est ce que je voulais. Compteur, je vais donc mettre, on va dire, je sais pas moi, index, peu importe. Readfile, file name. Voilà, donc j'ai quelque chose de, voilà, de plus cohérent. Alors, c'est même pas index, ce serait plutôt number of char. On va faire quelque chose d'un peu plus long, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça, n'hésitez pas aussi à écrire des variables qui ont vraiment un sens, parce que ça permet d'avoir du code qui est compréhensible, surtout qu'avec l'aide d'intelligence, vous allez voir que souvent on écrit juste la première lettre et qu'automatiquement l'intelligence vous montre votre variable. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Tab pour qu'elle s'écrive entièrement. Donc n'hésitez pas même à mettre des variables assez longues, ça n'est pas très très dérangeant. Donc ici, ce que je peux faire, c'est donc récupérer chacune des lignes. Et ce que je vous propose de faire, c'est de dire que number of caractères plus égale line.length. Alors le plus égal c'est quoi? Eh bien c'est comme si j'avais écrit ça en fait. Number of character prend number of character plus line.length. D'accord? Ça c'est exactement la même chose. Ces deux lignes-là sont équivalentes. Le plus égal est juste une facilité d'écriture qui permet d'aller un petit peu plus vite. Une fois que j'ai terminé mon reader, ici je vais faire un return de number of char. Vous voyez pourquoi j'ai pas d'ailleurs déclaré mon number of char, je ne l'ai pas déclaré, je l'ai déclaré ici et non pas dans ce bloc-là. Parce que si je l'avais déclaré dans ce bloc-là, pardon, Si j'avais été resté dans ce bloc-là, je n'aurais pas pu le renvoyer, puisqu'il n'aurait eu de portée que de ce bloc-là. Et quand je serais sorti du bloc, une fois que j'aurais terminé mon while, mon number of char aurait disparu. Donc ici, j'ai bien récupéré mon number of char. Et ce que je vous propose ici, c'est de faire un var number readFile de tout ça. Et après, je fais un console.writeLine de au fait, il y a deux points. Plus number point to string caractère dans ce alors, caractère pardon dans ce fichier. Hop. Et voilà, j'oublie pas le point virgule à la fin et j'oublie pas ici le plus. Et Visual Studio est en train de me dire que je me suis trompé quelque part, donc voilà. Donc ici, je peux faire donc exécuter mon programme. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc il me dit que j'ai une erreur. Ah oui, effectivement, j'ai essayé d'avoir la longueur. Donc vous voyez automatiquement, hein, Visual Studio me dit attention, il y a ce qu'on appelle une nulle référence exception. Pourquoi? Parce que tu as essayé de récupérer la propriété longueur d'une ligne qui doit être égale à nulle, parce que j'ai dû parcourir l'ensemble de tous les fichiers, de tout le fichier. Donc il ne faut pas que je fasse ce calcul ici, je ne dois le faire que si jamais ma ligne n'est pas égale à nulle. Donc ici, j'ouvre des crochets. Et voilà, j'écris comme ça. Donc là, je suppose que ça va mieux marcher. Voilà, au fait, il y a 6 caractères dans ce fichier. Je vous propose que l'on compte les caractères dans mon summary. Voilà, F5. Donc là, j'ai bien l'ensemble de tout ce qui a été écrit et il me dit qu'il y a 1460 caractères dans ce fichier. Bien, nous avons vu l'utilisation d'un nouvel opérateur qui est le while. On est allé un petit peu plus loin parce qu'on a utilisé un stream reader, on a fait un aperçu de ce qu'était qu'un namespace. Nous avons vu que la nullité est quelque chose d'important dans le framework.NET qui permet eh bien, de savoir qu'il est important de savoir si une variable est nulle ou pas, parce que eh bien, ça peut lever des exceptions quand on appelle des méthodes, des propriétés lorsque la variable est nulle. Donc il faut faire bien attention à ce genre d'effet de bord. Ça, c'est quelque chose qui est assez important en .NET. Vous allez voir que vous allez soit vous faire avoir, comme moi je me suis fait avoir d'ailleurs, sur le calcul de la longueur de la chaîne de caractères. Mais ce qui est bien, c'est que le framework vous lève une exception qui est assez explicite, puisqu'il dit que c'est une nulle référence exception. Bref, tout ceci pour dire qu'au final, on a réussi, simplement en quelques lignes de code, à créer une méthode qui prend en paramètre un nom de fichier, qui le lit, qui l'écrit sur la sortie console, et qui en plus compte son nombre de caractères. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours MVA.